Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Dominique Ramard est avec nous, il est président du syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor. Il est également conseiller régional de Bretagne et j'ajouterai maire de Saint-Gervais. J'ai dit une bêtise.
Je ne suis plus conseiller régional depuis 2021.
Pardon, oui, voilà, je dis une bêtise.
Mais bonjour à tous quand même.
Maire de Saint-Gervais, voilà, pris dans les notes, il n'avait pas été mis à jour. Pardonnez-moi, Dominique Ramard, on va parler d'énergie ce matin. Alors vous êtes avec nous à l'issue de cette tempête qui est passée sur le département et qui a causé nombre de dégâts et qui a mobilisé nombre d'agents d'Enedis, de RTE, mais aussi qui a dû mobiliser au niveau du syndicat d'électrification d'électricité des Côtes d'Armor. Alors cet événement qui n'est pas commun, qui risque malheureusement avec le changement climatique de se reproduire, comment vous l'avez géré ?
Alors c'est un événement exceptionnel. Enedis nous dit que c'est largement à la hauteur de la tempête de 1987. D'ailleurs, je dois tout de suite avoir une pensée pour la famille de l'agent Enedis qui est décédé à Pont-Aven en intervention samedi dernier. Les équipes d'Enedis, des entreprises également qui interviennent pour leur compte, le syndicat d'énergie qui a aussi donc demandé à des entreprises de privilégier la remise en état du réseau, la remise en fonctionnement. Tout le monde s'est mobilisé. Et puis en première ligne aussi sur le terrain, c'est les élus locaux, les agents municipaux, hein. Tout le monde a sorti la tronçonneuse, allait couper les arbres pour pouvoir dégager les accès et ensuite permettre les interventions sur le réseau électrique ou sur d'autres besoins qui étaient urgents également.
Alors sur les Côtes d'Armor, il y a encore aujourd'hui des foyers qui n'ont pas d'électricité. Alors on parle beaucoup du Trégor, est-ce que vous avez une idée au moment où l'on se parle à peu près de ce qui reste encore à rétablir ?
Il reste à peu près 15 000 clients qui ne sont pas aujourd'hui desservis en électricité. C'est principalement donc le sud-ouest du Trégor et le sud-ouest du département, le Kreisbreiz. Donc voilà, des interventions qui sont lourdes aujourd'hui. Enedis nous dit qu'ils ne sont plus dans la réparation aujourd'hui, il va falloir être dans la reconstruction du réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un arbre qui est tombé sur une ligne et qui a en fait coupé l'électricité. Souvent, on est sur des dégâts lourds avec des poteaux qui ont plié, qui sont cassés, donc on ne peut pas remettre le réseau parce qu'il n'y a plus de support pour pouvoir accueillir les câbles. Donc là, on est vraiment sur des travaux très lourds. Alors, je me mets à la place des personnes qui, depuis jeudi dernier, n'ont plus de courant. C'est très compliqué. Heureusement, la solidarité a fonctionné entre voisins, avec les élus aussi qui ont mis à disposition des salles, voire des groupes électrogènes entre agriculteurs, entre voisins. Et puis Enedis a également mis une centaine de groupes électrogènes à disposition pour pouvoir amener l'électricité là où c'est indispensable.
Alors ça pose la question, cette tempête, de la fragilité du réseau. Alors il ne s'agit pas de dire que le réseau est vieux ou mal entretenu, c'est pas le cas, le réseau est quand même assez robuste dans les Côtes d'Armor, en Bretagne plus largement. Mais est-ce que ça interroge sur la fragilité du réseau avec, je le disais en commençant, des tempêtes qui risquent malheureusement de se reproduire et d'être aussi fortes, voire malheureusement plus fortes?
Alors on a un réseau qui est vulnérable et un peu plus en Bretagne, notamment Côte d'Armor et Finistère, parce que d'abord on a un habitat qui est peu dense, donc il y a un linéaire de réseau qui est plus important ramené au nombre d'habitants que donc dans d'autres départements. En Côte d'Armor, c'est à peu près 25 000 km de réseau, 14 000 km en réseau basse tension, du 400 volts 220 volts, et puis à peu près 11 000 km en réseau moyenne tension, on dit HTA aujourd'hui, 20 000 volts ou plus. Ces réseaux-là, ils sont très étendus, ramenés à la population encore une fois. Et donc forcément plus de linéaires, ça veut dire plus de vulnérabilité, et on a aussi un pourcentage de ce qu'on appelle les fils nus, donc c'est quand il n'y a pas de gaine sur le câble, quand un arbre tombe, tout de suite ça fait un court-circuit. Donc on a aussi cette vulnérabilité, mais on a signé un nouveau contrat de concession de distribution électrique avec Enedis en fin d'année dernière, et il est prévu qu'on investisse massivement sur la fin de ces fils nus pour baisser le niveau de vulnérabilité. Après, bien sûr, il y a des enjeux aussi autour de l'élagage autour des lignes. Il y a des enjeux des fois même d'entretien du réseau, hein, faut se le dire. Avec 25 000 km, tout n'est pas au top. Hein. On a aujourd'hui un programme d'intervention qui nous permettra donc sur les 30 ans à venir vraiment d'avoir un réseau, alors non seulement qui fonctionnera bien, mais qui ensuite va être plus adapté à la survenue de tempêtes qui seront plus importantes que ce qu'on a connu ces derniers temps.
Alors on rappelle aussi aux auditeurs qui nous écoutent de ne pas toucher les fils, hein, lorsqu'ils sont tombés à terre, hein, parce qu'on croit qu'il n'y a plus d'électricité dedans. Et il peut malheureusement avoir de l'électricité dedans, donc il faut être très prudent.
Alors, le premier enjeu qu'il y avait jeudi matin, quand le matin a fallu aller sur le terrain regarder où est-ce qu'il y avait des blocages, donc d'abord d'accès routier, puis ensuite d'accès à l'électricité, c'était vraiment s'il y avait des fils à terre, il fallait absolument bloquer les accès là volontairement. Et donc derrière, c'est la sécurité, donc bien sûr des riverains, des personnes qui peuvent passer, et puis après des agents d'Enedis aussi en intervention. Donc tous les fils électriques ont été sécurisés. Alors malheureusement, il y a eu un deuxième coup de vent. Il y a aussi des arbres qui étaient restés debout au moment du premier passage de la tempête. Et puis deux, trois jours après, ils peuvent à nouveau tomber. Il y a des nouvelles pintes qui se sont rajoutées, et donc avec des nouveaux câbles à terre. Donc j'espère que là, on en sort. Les 15 000 personnes qui n'ont pas encore le courant, là, je le regrette encore une fois. Enedis nous dit que normalement, mercredi soir, tout le monde sera rétabli, sauf vraiment cas très difficiles en termes d'intervention.
Alors, on parlait des équipes d'Enedis. Alors, j'ai cité RTE, mais il y a eu moins de dégâts sur la haute tension. Les dégâts étaient vraiment sur la basse et la moyenne tension. Il y a eu une mobilisation incroyable et il y a eu surtout une anticipation. On a vu beaucoup de convois. Il y a eu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux de convois de petites voitures ou de camions bleus d'Enedis qui se rendaient en Bretagne, qui sont venus d'un peu partout en France. Et vous citiez en commençant cet agent qui est décédé qui venait de Méditerranée.
Du Gers.
Voilà. C'est aussi des conditions de travail très dures pour les agents. On imagine, lorsqu'il y a des bois, des arbres abattus, il y a aussi une question de sécurité. Des arbres peuvent tomber pendant les interventions. Est-ce que là aussi, ça demande un renfort des équipes? Comment on organise ces chantiers? Parce qu'on peut parler de chantiers.
Donc là, il y a eu une anticipation forte à Enedis. Hein, dès mercredi, il y avait à peu près 650 agents supplémentaires aux 1200 agents donc, bretons qui étaient déjà pré-mobilisés. Certains étaient en congé, ont quitté leurs vacances pour pouvoir être sur le terrain dès mercredi soir pour intervenir jeudi matin une fois que la tempête s'était un peu calmée. Il y a aussi 600 agents d'entreprise qui interviennent pour Enedis ou pour le syndicat départemental d'énergie qui ont été mobilisés en plus. Donc déjà, c'est cette forte mobilisation anticipée qui a permis de réagir relativement vite. 220 000 clients en Côte d'Armor n'avaient pas le courant jeudi matin. Le midi, on était déjà à 144 000 seulement. Enfin, encore beaucoup. Mais 80 000 avaient déjà eu un rétablissement dans les 3 heures. Donc on voit bien qu'il y avait une anticipation. Là, il y a même des collègues irlandais qui ont débarqué aussi, secteur de Guingamp.
Avec leur camion jaune, hein, ils ne sont pas passés inaperçus.
Non. Donc ça c'est le bon côté, la solidarité. Elle fonctionne. Il y a des fois des agents Enedis qui sont allés dans d'autres pays aussi rendre des services. Mais là, effectivement, la sécurité d'intervention, il fallait d'abord que les routes soient dégagées, il fallait être sûr qu'il n'y ait pas d'arbres à tomber. Et on n'est jamais sûr de rien, parce que là, on voit bien, quand M. le préfet a demandé à ce qu'on n'accède pas aux forêts parce qu'il y avait des risques de chute d'arbres, c'est une réalité. Hein. On aura encore, je pense que dans les 15 jours, 3 semaines, des risques de chute. Il suffit qu'il y ait un nouveau coup de vent, hop, la branche qui était maintenue, elle casse, et puis c'est tout de suite un arbre qui peut tomber. Hein. Donc attention, vraiment prudence sur la sécurité électrique, mais aussi sur la sécurité dans les bois, sur les bords de route. Il faut être vigilant.
Alors comme dans ces cas de grandes crise, on peut le dire comme ça, en tout cas d'événements inattendus tels que cette tempête Ciaran. Alors il y a la solidarité, puis il y a les voix qui s'élèvent, souvent sur les réseaux sociaux, on les lit. Alors on va pas détailler tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'il y a à boire et à manger, comme l'on dit, mais il n'en demeure pas moins qu'on entend beaucoup de critiques vis-à-vis des lignes aériennes. Pourquoi on n'enterre pas les lignes électriques? C'est ce qu'on entend depuis quelques jours. J'imagine que ça a un coût, j'imagine que ça demande aussi des travaux d'infrastructure importante. Voilà, c'est la question qui reste entière finalement.
Oui, on le voit pour les réseaux électriques comme pour les réseaux de télécommunications. Mais effectivement, je pense que la principale raison, c'est le coût supplémentaire qui serait nécessaire si on allait du tout souterrain. Nous, on s'aperçoit que finalement, du réseau aérien, donc en torsadé, là, qui n'est plus en fil nu, peut vraiment tenir correctement par rapport à la grande majorité des événements qu'on peut connaître. Dans des opérations, par exemple, quand on passe en espace boisé, aujourd'hui, on évalue l'intérêt de passer donc, en souterrain. Et c'est à ce moment-là, donc, si on considère qu'il y a un risque trop fort d'une chute d'arbre donc, sur le réseau, qu'on peut privilégier du souterrain plutôt que l'aérien. Mais en général, pour des questions financières, budgétaires, pour pouvoir intervenir aussi dans plus d'endroits que si on faisait du tout souterrain, eh ben on privilégie l'aérien et le souterrain, et là on recourt dans des situations particulières, notamment les espaces boisés.
Il est plus facile d'intervenir en aérien qu'en souterrain, on détecte mieux une panne en aérien?
Pas forcément, je pense pas, puisque les pannes sont détectées aujourd'hui à distance avec des transformateurs qui sont communicants. Non, il n'y a pas vraiment d'avantage dans un sens ou dans l'autre de ce point de vue-là. Vraiment, la question, c'est un compromis qu'on doit trouver entre l'aspect économique et l'aspect sécurité, et notamment par rapport aux événements climatiques que l'on a connus et qu'on va encore connaître. Et donc, on a des technologies aériennes qui peuvent très bien résister, à condition que les élagages soient bien faits. Et quand on est dans des territoires trop boisés, ben, on privilégie du souterrain, parce qu'on considère que là, le compromis est en faveur donc de l'enterrement du réseau.
On a un réseau important, hein, vous le disiez, Dominique Ramard, en Côte d'Armor, plus largement en Bretagne. Réseau qui se modernise, hein, il n'a plus grand-chose à voir avec le réseau qui existait il y a 20, 30 ou 40 ans. Il va continuer à se moderniser, ce réseau. On va continuer à investir pour que l'électricité aujourd'hui, c'est devenu un enjeu majeur, hein, on l'a compris, pour économiser, pour communiquer aussi. Vous parliez de réseaux communicants, de transformateurs communicants. Il y a de gros investissements prévus dans les 10, 15, 20 ans à venir.
Ah oui. Alors, le syndicat investit à peu près 10 millions d'euros par an sur la sécurisation, le renforcement des réseaux. Enedis, c'est 42 millions d'euros par an ces dernières années. Donc, vous voyez, c'est 50 millions d'euros par an environ qu'on a comme investissement chaque année dans le réseau. Il y a beaucoup de technologies classiques, changement des câbles, amélioration des dispositifs de transformation, mais aussi donc, les nouvelles technologies, avec plus en plus de communication donc, entre les équipements et les centrales. De conduite de réseau. Et on a maintenant des financements supplémentaires qui sont octroyés au niveau national, justement pour amener de la flexibilité, c'est-à-dire aussi gérer la façon dont on va équilibrer la partie production avec la partie consommation, parce que notre réseau de distribution est aujourd'hui largement un réseau d'acheminement de la production décentralisée que l'on a sur le territoire, photovoltaïque, éolienne ou autre. Donc c'est un réseau qui se modernise aussi parce qu'il change de configuration et surtout d'usage.
Alors, il y a aussi cette grande question, l'énergie, elle vient d'où? Alors là, on pourrait y passer plusieurs heures, mais en gros, schématiquement, en Bretagne, on produit peu d'énergie. On n'a pas de centrale atomique, centrale nucléaire. On a une diversification d'énergie quand même avec l'éolien en mer. Est-ce qu'on va aller vers ça dans les années à venir, ces énergies, alors qu'on a qualifiées de vertes, hein, l'énergie solaire et l'éolien, l'hydraulique, on ne va pas l'oublier non plus. Est-ce qu'on va vers ça dans ces années à venir? Et est-ce qu'il va falloir économiser? Parce que c'est le grand enjeu, là aussi.
Tous les scénarios pour les années à venir disent bien qu'il va falloir à la fois produire plus. Et donc, en Côte d'Armor, en Bretagne, ce sera majoritairement des énergies renouvelables, donc éolien, photovoltaïque, éolien en mer. Et donc, à la fin de l'année, le parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc produira en pleine puissance. Et donc, ça sera l'équivalent quand même de 60% de la consommation sur le réseau basse tension costarmorique. Donc, on est déjà aujourd'hui à 23% de taux de couverture par les énergies renouvelables par rapport à la consommation costarmoricaine. Donc on est au-dessus de la moyenne bretonne qui est plutôt de l'ordre de 18%. Donc on aura aussi du nucléaire qui va se développer, mais ailleurs en France. Je ne crois pas qu'il y ait d'actualité nucléaire en Bretagne encore. Et donc on aura de toute façon plus de production, et il va falloir plus de production parce que même si on est sobre dans nos usages, il y aura plus de consommation électrique. L'exemple de la mobilité électrique le souligne assez facilement. Donc on va changer d'équation énergétique avec plus d'électricité et aussi plus de production, et notamment au niveau local. C'est ça la transition principalement. Et ça ne va pas être simple, parce qu'on voit bien qu'on est souvent en retard sur nos scénarios de production d'énergie renouvelable. J'espère qu'il y aura une loi de programmation énergétique qui passera au Parlement prochainement, parce qu'on aura besoin d'un cap nouveau et encore plus ambitieux, plus rapide en termes de déploiement.
Parce qu'effectivement, Dominique Ramard, on utilise aujourd'hui l'électricité pour tout, pour faire de la radio, tenez, mais aussi pour alimenter notre portable, pour les voitures électriques qui ont tendance à être le plus souvent sur nos routes. En tout cas, on en voit beaucoup plus sur nos routes qu'il y a encore quelques années ou même quelques mois. On a toujours la peur du blackout. Hein. On en parle de ce fameux blackout. Il est loin derrière nous, ce blackout, ou il y a encore des risques aujourd'hui ?
Moi, je pense que effectivement, de temps en temps, on risque d'avoir des tensions, entre guillemets, sans jeu de mots, sur le réseau. C'est que il est possible, on l'a vu l'hiver dernier, hein, il suffit que la production soit pas à disposition. Si la consommation ne diminue pas, et heureusement, tous nos concitoyens ont fait une œuvre de sobriété, ça a permis de passer l'hiver dernier. Mais effectivement, il peut y avoir des risques de déséquilibre du réseau entre production et consommation, et donc on peut parler de blackout. Mais on voit qu'on s'est organisé, on avait programmé des délestages donc sur le réseau en cas de besoin. Heureusement, on n'en a pas eu donc l'usage, mais voilà, on n'est pas à l'abri de ces évolutions. Mais je pense qu'effectivement, nos usages autour de l'électricité sont en train d'évoluer. Là, dans la crise qu'on vient de passer, il y a eu des ordres de priorité de remise en service, forcément, les hôpitaux, les maisons de retraite, un certain nombre d'usages autour de l'eau potable, notamment, puisqu'on avait des pompes qui n'étaient plus alimentées, donc on avait des risques d'approvisionnement en eau potable qui étaient interrompus. Et malheureusement, il y a eu des endroits où il n'y a plus d'eau distribuée. Mais aujourd'hui, ce dont on s'est aperçu, c'est une vulnérabilité vis-à-vis des télécommunications. Tout de suite, on n'a plus accès aux services d'urgence. On a aussi des difficultés à organiser les secours et aussi les interventions. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer de télécommunications. Donc là, je pense qu'on sera amené avec Enedis à revoir l'ordre de priorité de remise en service du réseau. Et notamment, la partie télécommunications nous semble désormais indispensable. Donc ça sera aussi des échanges qu'on aura en bilan et analyse de cette tempête, que de voir avec les services de l'État, notamment, comment est-ce qu'on peut revoir les ordres de priorité et aussi mieux identifier où ils se trouvent sur le territoire, parce que des fois, on n'est pas au courant de tout. Hein. Il y a par exemple des établissements pour des personnes handicapées qui n'étaient pas identifiés comme étant à risque ou vulnérables vis-à-vis de l'électricité. Moi, ça m'a un peu choqué. Je pense que c'est des établissements qu'on doit aussi reprioriser en termes de remise en service et de refourniture de l'électricité.
Alors, vous parliez des télécommunications, pour faire simple, hein, pour nos auditeurs, on a des relais de téléphone dans la campagne. Évidemment, ça demande de l'électricité, là encore, qui n'ont pas forcément toujours été rétablis, pas forcément parce que c'était pas prioritaire, mais parce que c'était pas identifié. Hein, c'est un petit peu ça le problème. Alors aujourd'hui, il y a encore des difficultés sur le réseau, même si ce n'est pas évidemment le syndicat ou Enedis ou RTE qui gère évidemment ces réseaux. Il y a des contacts avec les opérateurs des réseaux, justement, de télécommunications.
Ah oui, avec les quatre opérateurs que tout le monde connaît, les échanges ont été réguliers, un peu comme avec tous les utilisateurs d'électricité de manière indispensable. Je parlais tout à l'heure des services d'adduction en eau potable. Là, on a eu des rendez-vous réguliers, soit avec les communautés de communes ou d'agglomération, soit avec les syndicats donc d'adduction. Ce que je retiens, moi, de toute cette période aussi, c'est que finalement, c'est du service public hein, qui a été mobilisé. On se dit toujours à quoi tout ça sert. Quand on regarde sa facture d'électricité, on voit le prix donc, de l'électron, mais il y a toute une partie de la facture, c'est ce qu'on appelle l'acheminement. Il faut savoir que quand on paye sa facture d'électricité, on paye aussi ce service et cette disponibilité rapide donc, de remise en état du réseau, de façon à ce que chacun puisse retrouver l'électricité pour des usages indispensables, et notamment la téléphonie que vous évoquez.
Alors le service public, il a été majeur hein, dans cette crise. Hein, on a cité Enedis, on aurait pu citer aussi beaucoup d'entreprises privées qui sont venues donner le coup de main, comme l'on dit, qui ont été essentielles sur le terrain. On a vu que ça a très bien fonctionné finalement, le public et le privé. Est-ce que c'est ça aussi la clé pour pouvoir remettre en service très vite ? C'est que les services, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, puissent discuter, dialoguer, aller très vite, qui connaissent leur métier, évidemment, les uns les autres.
Oui, alors c'est souvent mal connu, mais le réseau de distribution d'électricité, propriété des collectivités, le syndicat départemental d'énergie que je préside, il n'est que le délégataire pour le compte des communes de la propriété de ce réseau, et après de son entretien, qui ensuite est géré de manière donc obligatoire dans un département comme le nôtre, par Enedis. Mais derrière ces deux entités, syndicat d'énergie et Enedis, il y a surtout des entreprises entreprises privées qui interviennent pour notre compte, notamment pour les travaux donc liés à l'investissement. Sur le fonctionnement, les agents d'Enedis sont bien sûr très présents. Et là, on a vu dans cette situation que les entreprises privées ont été mobilisées donc à vraiment haut niveau. Et le syndicat d'énergie a fait passer le message en disant il y a des priorités. Les travaux d'investissement plutôt qui pouvaient attendre, on les a mis de côté pour prioriser les travaux de remise en état. Et de même que l'éclairage public, bon, il y a eu à peu près 75 interventions là, qui ont été réalisées ou qui vont être réalisées de remise en état de l'éclairage public, parce que lui aussi a un peu subit la tempête, mais forcément c'est pas prioritaire par rapport au fait de remettre le courant chez quelqu'un. Et donc je veux quand même aussi rassurer tout le monde. Donc j'ai dit tout à l'heure que Enedis nous annonce mercredi soir pour la remise en fonctionnement chez tout le monde. On n'oubliera personne, parce que j'ai aussi des messages qui me remontent, et pas seulement sur les réseaux sociaux, sur peut-être qu'ils vont remettre chez mon voisin, mais pas chez moi. J'espère que ça sera pas le cas, mais si c'était le cas, ça peut arriver, hein, que voilà, faut dire aussi, ça fait 6 jours qu'ils sont sur le terrain, il peut y avoir des oublis, mais allez voir votre mairie, appelez le numéro d'Enedis, et puis petit à petit, vous inquiétez pas, personne ne sera oublié. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, on arrive au bout, notamment sur le centre-ouest Bretagne, là il y a encore des terrains qui sont un peu difficiles d'accès et pour lesquels les remises en fonctionnement sont compliquées, mais elles ne sont pas oubliées et donc la réparation aura bien lieu.
Alors Dominique Ramard, vous parliez tout à l'heure de solidarité, il y a aussi la solidarité vis-à-vis des services. Comment on peut signaler quand on voit un câble ou quelque chose qui est anormal sur un poteau? Faut signaler Enedis, il y a des numéros spéciaux?
Oui, alors dans le haut de votre facture d'électricité, il y a 2 numéros, celui de votre fournisseur, donc ça c'est quand vous avez des problèmes sur votre contrat donc, d'approvisionnement, c'est en cas normal, mais là quand il y a un problème d'intervention sur le réseau, le numéro d'Enedis est rappelé en haut de la facture d'électricité.
Voilà, donc
je ne le connais pas par cœur, je suis désolé, sinon je vous l'aurais donné. Et puis les élus ont un numéro aussi dédié. Ils peuvent appeler Enedis en rappelant donc, le numéro d'INSEE de leur commune. Ça leur permet tout de suite, en fait, après, d'avoir accès à Enedis de manière privilégiée. Et là, ça peut accélérer des fois donc, les travaux, notamment quand il y a des questions d'accès sur les voies communales ou un gros secteur qui peut être touché. Voilà.
Alors il y a aussi la question des personnes isolées qui sont malades, qui ont besoin, par exemple, d'un équipement médical pour respirer ou autre. On peut les encourager à se signaler auprès d'Enedis, auprès des communes, parce qu'on a vu des fois des cas, alors ça n'a pas été le cas, en tout cas ça n'a pas été signalé sur cette tempête, mais de gens qui se sont retrouvés un peu démunis, n'ayant pas d'électricité chez eux. Il faut se signaler dans ces cas-là, il y a une priorité là aussi.
Alors souvent c'est des personnes qui sont identifiées en amont, heureusement qu'on n'attend pas la crise pour régler ce genre de situation. Donc ce qu'on appelle les personnes à haut risque vital, il y a une liste en fait qui a déjà été transmise à Enedis, et Enedis va rétablir le courant en priorité donc chez ces personnes. Si c'est pas possible, il y a notamment avec la protection civile il y a des appels quand le téléphone passe, et quand le téléphone ne passe pas, il y a quelqu'un qui se déplace pour voir comment la personne va. Notamment, il y a des personnes qui ont des appareils respiratoires qui doivent absolument être branchés. Si vraiment la situation devient critique, là, il peut y avoir rapatriement dans un centre hospitalier. Donc, ces situations-là sont bien prises en compte. Mais je me suis aperçu, moi, là, dans la crise qu'on vient de passer, qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées comme étant à haut risque vital, mais quand même qui ont des besoins pour des questions sanitaires, d'accès à l'électricité quasi permanent. Ça peut être le lit médicalisé, ça peut être des fois seulement... alors, c'est pas un appareil respiratoire, mais ça peut être juste une aide respiratoire. Et donc ça, je pense qu'il faudra qu'on identifie mieux les personnes vulnérables, qui ne sont pas forcément qualifiées à haut risque vital, mais qui ne peuvent pas supporter d'être une journée entière sans électricité.
Je disais tout à l'heure en commençant, Dominique Ramard, je vous ai redonné votre titre de conseiller régional, vous ne l'avez plus, vous l'avez précisé, mais vous êtes bien toujours maire de Saint-Juvat. Est-ce que Saint-Juvat a été impacté? Est-ce que la commune a souffert de cette tempête Ciaran?
Globalement, beaucoup moins que d'autres communes. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup plus. Mais il y a eu quand même à peu près le quart des abonnés sur Saint-Juvat qui n'avaient pas d'électricité jeudi matin. Donc là, nous, on avait les réseaux mobiles passés. Par contre, il n'y avait pas d'Internet jusqu'à peu près à midi. Après, dès que les réseaux sociaux se sont remis à fonctionner, la solidarité, elle peut aussi passer à ça. Vous disiez qu'il y avait à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Et bien là, je ne sais pas si c'est à boire ou à manger. Mais en tout cas, il y a eu des choses positives en termes de solidarité. Mais comme l'électricité n'était pas revenue sur la totalité de la commune, nous, on a proposé, comme d'autres maires l'ont fait, de mettre à disposition la salle polyvalente pour pouvoir venir recharger son téléphone, utiliser les frigos ou les congélateurs, parce que là, certains commençaient à s'inquiéter. Et donc, voilà, il y avait des moyens communaux, municipaux, là, qui étaient prêts à être mis à disposition. Heureusement, chez nous, on n'en a pas eu besoin. Et puis là, je fais quand même un petit coucou à tous mes collègues élus qui, eux, ont dû aller jusqu'au bout et proposer ces salles polyvalentes, ces accès à l'électricité, pour être sûr que les personnes qui étaient un peu réfugiées après la tempête puissent justement être accueillies dans les salles polyvalentes et bénéficier des services municipaux qui étaient mis en place.
Voilà, je disais, il y a boire à manger sur les réseaux sociaux, mais aussi une grande solidarité, heureusement.
Il faut toujours chercher le positif.
Voilà, c'est le côté très positif des réseaux. Un dernier mot, il nous reste une petite minute, Dominique Ramard. La solidarité a marché aussi entre les élus. On a entendu beaucoup parler de maires qui se sont donné le coup de main d'une commune à l'autre pour pouvoir s'entraider.
Oui, parce que il y a quand même une quarantaine de communes qui n'avaient plus du tout d'électricité. Hein. Aucun point sur la commune n'avait accès à l'électricité. Donc là, forcément, c'était le voisin qui pouvait être la solution. Donc voilà. Et puis on s'échange nos petits trucs. Hein. voilà. De temps en temps, voilà, c'est le matériel d'un agriculteur de la commune qui va aller sur la commune d'à côté. Voilà. Ça a bien fonctionné, et tant mieux. Et donc, alors on espère ne pas avoir à revivre ce type d'événement. Hein. C'est bien ça, donc aussi notre envie, notre intention. Mais malheureusement, moi, je crois qu'avec le changement climatique, il faut se préparer à ce qu'on ait des événements violents comme ceci de plus en plus souvent. Du côté du syndicat d'énergie, on investira dans le réseau aux côtés d'Enedis. Et du côté des élus, je pense que notamment sur la question des élagages, ça va devenir une priorité, donc, comme ça l'a été lors des précédentes tempêtes. Il y a eu un gros travail qui avait été fait par Enedis les précédentes tempêtes. Et ici, on a vu que il fallait qu'on poursuive notamment l'investissement dans le Centre-Ouest Bretagne et dans le Trégor pour avoir un réseau électrique qui soit encore plus performant.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Dominique Ramard, la solidarité. Et puis on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de grandes tempêtes comme on a vécu et que le réseau tienne. En tout cas, vous y veillez, les agents y veillent et les élus aussi. Et c'est ça qui est important. Dominique Ramard, président du syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor et maire de Saint-Juvat. Voilà. Merci d'être venu avec nous au micro de la matinale ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Au revoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.